Ce message a été enregistré en public au Centre évangélique de Saint-Nazaire. Prédicateur, pasteur Alain Ouvrard, toute l'équipe vous souhaite une bonne écoute.
À chacun. Je vous propose que nous continuions ce que nous avons entrepris, nous avions parlé, de ce mystère qui est dans le plus profond de chacun d'entre nous. Qu'y a-t-il après la mort? Vous vous souvenez? Oui. Il y avait eu un enregistrement qui avait été fait, d'ailleurs, qui avait été pris quand même, vous avez été intéressé, et nous allons voir le deuxième volet, il y en aura peut-être un troisième, je me suis livré à une étude. Parce que je voudrais quand même vous dire que l'on parle beaucoup de différentes choses dans la Bible, mais on parle très peu de ça. Or, le but de notre existence de chrétien, c'est pas seulement les choses de la terre, c'est aussi notre destination céleste. Et je vous l'avais rappelé l'autre jour, il y a beaucoup de cantiques, il y a beaucoup d'hymnes chrétiens qui nous parlent finalement de l'au-delà. Et j'aimerais justement continuer. Et c'est vrai que, bon, c'est une étude systématique, laquelle je me suis livré, ça m'a fait du bien. Alors j'espère que ça vous fera du bien, et que vous puissiez avoir des convictions fortes que la mort n'est pas ce que nous croyons. La mort n'est pas une fin. La mort, c'est un commencement pour celui qui a foi en Jésus-Christ. D'ailleurs, dans les paroles de Jésus même, eh bien, il y a énormément de références et d'espérance, de communication d'espérance sur notre destinée finale en Jésus-Christ. J'aimerais ouvrir lire un verset avec vous, parce que la mort nous inspire la crainte, la peur et l'épouvante. Alors, on va lire ce texte et après on reprendra le fil de notre méditation de la fois précédente, et je ferai un petit récapitulatif pour ceux qui n'ont pas été là, et nous poursuivrons dans cette étude doctrinale. Alors, Hébreux, chapitre 2, verset 14. Hébreux, chapitre 2, verset 14. Et j'ai ceci devant les yeux. L'auteur de cette lettre nous dit ceci. Ainsi donc, puisque les enfants, c'est-à-dire les chrétiens, les hommes et les femmes qui ont cru en Jésus-Christ, il les appelle les enfants, ainsi donc, puisque les croyants, les chrétiens participent au sang et à la chair, c'est-à-dire à notre humanité, Jésus y a également participé lui-même afin que par la mort, et si vous voulez on peut traduire par sa mort même, il rende impuissant celui qui avait la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable. Ainsi, en conséquence, Jésus délivre tous ceux qui, par crainte de la mort, la peur, voire même la terreur, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Il nous est présenté que Jésus, puisqu'il s'est revêtu de notre humanité, qu'il est passé par le même chemin que nous, par lequel nous passerons, nous sommes vivants sur cette terre, c'est-à-dire mourir, eh bien Jésus a vaincu par ce fait même qu'il est mort à notre place et qu'il a vaincu le diable, qui est le prince de la mort, et à ce titre-là, il nous délivre les uns et les autres. S'il y avait encore quelques doutes, quelques craintes dans notre cœur en tant que chrétien, c'est qu'il nous délivre de la peur et de la crainte de mourir. Alors, on n'a pas forcément envie de mourir aujourd'hui. D'accord. Mais une chose qui est certaine, c'est que la Bible nous donne des assurances. Et je crois qu'un chrétien doit être serein. Il doit être tranquille quant à cette destination qui est la nôtre. Mes frères et sœurs, je voudrais vous le dire et le redire, nous ne sommes pas perdus, mais nous sommes sauvés. C'est ça la question. Et quand je sais que je suis sauvé, de qui aurais-je crainte? De quoi aurais-je peur? C'est une fermeté d'assurance, c'est une certitude, c'est une conviction que nous avons dans notre cœur. Alors, ce texte lu, on y reviendra peut-être à un moment ou à un autre, mais j'aimerais justement aller un peu plus loin dans notre réflexion. Vous vous souvenez que la fois précédente, nous avons évoqué ce passage du pauvre Lazare et du mauvais riche. Vous vous souvenez, hein, dans Luc, chapitre 16, verset 19. Je vais relire simplement le passage, ce sera inversé, on ne va pas le lire comme on l'a lu la dernière fois, on l'avait vu tout le chapitre. Alors, il s'agit d'un homme pauvre qui meurt. Et il y a aussi un riche qui meurt. Non pas parce qu'ils vont mourir parce que l'un est riche et l'autre est pauvre, ça ne rentre pas en ligne de compte. C'est qu'il y en a un qui croit, et dont le nom Lazare veut dire « Dieu est mon soutien et mon espérance ». Et puis, il y a ce riche qui ne croit en rien, sinon en lui-même. C'est-à-dire que toute sa vie, elle est sur ses richesses, ses maisons, son bien-être, sa vie joyeuse et, et brillante, en quelque sorte. Et puis, lui, son univers, c'est la terre. Par contre, le pauvre, son univers, il a une espérance en Dieu. Et il nous est dit que le pauvre, à un moment donné, est mort certainement de sa pauvreté, de son indigence et de l'abandon des hommes, puisqu'il n'y avait plus des chiens autour de lui pour lécher ses blessures. Imaginez-vous l'abandon et la condition de cet homme. Il nous est dit que le pauvre mourut et il fut porté par les anges dans le sein d'Abraham. Le sein d'Abraham est quelque chose de spécifiquement compris par les Hébreux, par les Juifs, hein, qui veut dire, c'est un hébraïsme qui veut dire, eh bien, le paradis en quelque sorte. Voilà. Parce qu'Abraham est le représentant finalement de l'espérance des Juifs. Alors, je voudrais faire un bref récapitulatif sur ce que nous avons dit il y a 3 semaines. Nous avions parlé, tout simplement, que celui qui croit en Jésus-Christ ne mourra jamais. Alors peut-être vous me répondrez, mais si, on meurt. Mais on ne meurt pas de la mort dont nous pensons. Notre corps va disparaître. Cette enveloppe va disparaître. Mais la lettre qui est à l'intérieur, eh bien elle va subsister. Notre âme est la dimension de notre esprit. Donc, il ne mourra jamais. C'est pas moi qui le dis. C'est pas n'importe qui le dit, c'est Jésus qui le dit au moment de la résurrection de Lazare. Celui qui vit et qui croit en moi ne mourra jamais. Moi, je le crois. Nous avions vu également que la mort du croyant sera comme une sorte, un état de sommeil, en attendant la résurrection. Mais, nous avons vu également dans la parabole du riche et du pauvre, que la mort n'est pas une inconscience. Puisqu'il y a un discours à ce moment-là qui se trouve, vous relirez le texte, hein, où il y a une communication entre, finalement, eh bien, Abraham, le riche, et que ce n'est pas un état d'inconscience, donc dans l'attente de la résurrection. Nous avions vu également que le croyant est et sera, non pas n'importe où, mais dans la présence de Jésus, dans sa présence. Jésus nous attend. Il est monté au ciel, et c'est une certitude. Nous avions également évoqué que notre corps mortel, c'est-à-dire notre chair, eh bien, disparaît comme le grain de blé qui est enfoui dans le sable et qui disparaît, mais qui renaît pour donner un épi. Et nous revêtons à ce moment-là un nouveau corps qui a cet adjectif, il est glorieux. Autant nous sommes dans un monde et dans un corps qui souffre, un corps qui se dégrade, qui vieillit, un corps qui porte l'humiliation en quelque sorte, autant nous porterons un corps glorieux, on en reparlera tout à l'heure, un corps impérissable alors que nous sommes mortels, un corps incorruptible alors que finalement la corruption est bien là et tout autour de nous sur cette terre, un corps qui sera céleste après avoir été terrestre, un corps éblouissant comme Jésus lorsqu'il est ressuscité ou lorsque Jésus est apparu à ses 3 disciples sur la montagne de la Transfiguration. Il nous est dit que Jésus est apparu brillant comme le soleil. Vous connaissez tous ces textes, vous avez en mémoire, vous les lisez, hein, d'accord. Et nous serons semblables aux anges, puisqu'il nous est dit que les anges ne meurent pas et qu'ils ne se marient pas non plus. Bon. Nous serons immortels. Après avoir connu la mortalité, la dimension mortelle, nous serons immortels. Nous avions vu également, sur une question, où serons-nous et où irons-nous ? Jésus nous répond dans Jean chapitre 14, lorsqu'il nous dit, avant sa crucifixion, qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Donc, il le dit, et il le dit d'autant plus, que si cela n'était pas vrai, je vous aurais dit que c'était pas vrai, mais comme il nous le dit, c'est vrai. Il l'affirme. un lieu préparé, un lieu que nous pouvons qualifier de félicité. La félicité, c'est pas un mot qu'on utilise beaucoup, hein. C'est une cité, c'est une patrie, comme les Hébreux ont cherché la patrie dans le pays de Canaan, mais ça c'était matériel, c'était terrestre. Et ils ont erré, ils sont sortis du monde, de l'Égypte, pour arriver. Ils ont vécu finalement dans cette espérance. Mais nous, notre cité, elle n'est pas sur cette terre. Notre cité, elle est dans le ciel. C'est un pays. Ce ne sera pas le pays de Canaan. Mais ce sera quelque chose qui aura une autre dimension. Au centre, dans cette cité céleste, ou dans ce pays du bonheur éternel, Dieu sera le temple. Comme il y a eu cette préfiguration du temple de Salomon, etc., où l'Israélite venait pour adorer son Dieu. Maintenant, ça sera plus matérialisé de cette manière. Et il nous est dit que l'agneau sera le flambeau. Il sera le soleil, il sera la lumière. Livre de l'Apocalypse. S'il y a quelques caractéristiques que nous avons ajoutées la fois dernière sur ce séjour céleste, je le répète, il sera immuable, à jamais, à toujours. Il sera pour celui qui sera de l'autre côté, ça sera plutôt la sécurité parfaite. Regardez notre monde, nous on est blindés de tous les côtés avec des verrous, avec la police, enfin toutes sortes de choses. Là-bas, il n'y aura pas la nécessité naturellement. Nous voyons que le jour, eh bien, il sera permanent. Plus de nuit, plus de crépuscule, plus d'obscurité. Il n'y aura plus d'ombre non plus. Hein. Tout ça aura disparu. Il n'y aura plus surtout le mal, il n'y aura plus la mort, il n'y aura plus le péché, il n'y aura plus la souillure. Parce que ça, c'est le lot de la terre, mais dans le ciel, comme si le prophète Habacuc n'avait pas compris lorsqu'il dit cette parole dans le premier chapitre au verset 13, « Les yeux de l'Éternel sont trop purs pour voir le mal. » Et puis, il nous est rappelé, nous l'avons dit l'autre jour, c'est que dans ce paradis, dans cet état céleste, le fleuve sera un fleuve que l'on appelle le fleuve de l'eau de la vie. Et l'arbre qui était dans le jardin d'Éden, dans les premières pages de la Bible, ça sera l'arbre de la vie qui présidera aussi. Et il nous est dit que le renouvellement se fera par le fruit de cet arbre de la vie. Alors, nous allons voir aujourd'hui, si vous voulez, rapidement, avant de reprendre le cours de notre méditation, de l'humiliation de notre condition d'homme à la gloire céleste. Nous verrons que nous passerons, nous arriverons à la consolation après les larmes et nous trouverons le parfait bonheur. Nous découvrirons ici que la consécration et le service sera couronné de récompenses. On est sauvé par la foi, mais de l'autre côté, nous serons couronnés, récompensés pour la fidélité que nous aurons montrée ici-bas sur la terre, dans l'amour, dans le service pour nos frères, nos sœurs, pour le monde, pour les hommes et pour Dieu en premier, c'est que ce sera couronné de récompenses, de couronnes. On parlera des couronnes et ce qu'elles signifient. Et puis, nous avons une exhortation à résister à la tentation, à résister aux épreuves, de surmonter les épreuves, de surmonter le mal par le bien. Ça fera aussi partie justement des vainqueurs. Et puis il y a une exhortation aux pasteurs également que nous verrons dans notre étude, parce que ce sont des conducteurs spirituels. Leur responsabilité est tout autre. Elle est beaucoup plus grande. Et nous citerons quelques textes. Et puis nous terminerons à travers la sainteté et à travers les perfections célestes. Alors maintenant, au travail. Hein, c'est une introduction qui était quand même un petit peu longue, mais je voulais quand même le redire, et vous retrouverez tout ça dans les enregistrements, de toute façon. Nous allons continuer avec une notion qui est très importante, me semble-t-il, dans cette dimension céleste, c'est la notion du repos. La vie est un labeur. La vie est une fatigue. Si elle n'est pas physique, elle est morale, elle est psychologique, elle peut être là, eh bien, une lutte terrible spirituelle aussi, parce que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Vous savez ce que dit Paul, hein, naturellement, dans cela. Et nous voyons que cette autre question, c'est que, je cite, hein, « Lorsque le Seigneur Jésus apparaîtra du ciel, le repos nous sera donné. » nous nous reposerons de nos œuvres. Vous vous rendez compte? Alors pour ceux qui n'ont jamais travaillé, bon, ils seront pas trop fatigués, mais en tous les cas, une chose qui est certaine, c'est que la vie est un combat. La vie est une lutte, la vie est quelque chose qui nous fait pleurer et souffrir, parce que c'est comme ça qu'on vieillit, hein, les fatigues, naturellement. Maintenant, ce sont des tribulations, toutes sortes de choses qui sont en opposition dans ce monde. C'est un conflit, c'est une guerre. Alors, ça sert le repos, et j'ajoute, le repos de la gloire. Je continue encore. Il y a cette citation dans Jean, c'est Jésus qui prie, il dit ceci, « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi. » Nous sommes le don de Dieu à Jésus-Christ, par notre salut. La foi, la repentance, la conversion à Jésus-Christ, la nouvelle naissance, et nous pouvons dire la plénitude du Saint-Esprit. Nous sommes des dons en quelque sorte. Alors, afin qu'ils voient ma gloire, le but de Jésus en nous sauvant, en sauvant les hommes, c'est que nous voyions sa gloire. Nous avons vu des horreurs. Et nous voyons tous les jours des choses qui sont horribles, abominables, épouvantables. Nos yeux les voient. Et même si nous avons un leader que nous idolâtrons, ce ne reste qu'un homme. Mais là, nous verrons Jésus face à face. Et nous verrons sa gloire. La gloire, dit Jésus, que tu m'as donnée, il parle à son père, parce que tu me l'as donnée avant la fin du monde. Jésus n'a pas fait son apparition comme nous les simples hommes. Il y a eu une pré-existence de Jésus. Tout l'Ancien Testament nous en parle. Ce qu'on appelle l'incarnation lorsqu'il est venu. Mais Jésus est Dieu. Et Jésus veut que nous le reconnaissions comme Dieu. Et il veut que nous voyions la gloire de Dieu. Autre propos, pour traduire, si vous voulez, le verbe grec traduit par « voir » est un mot très significatif. Il veut dire « contempler très attentivement », sous le rapport d'un ravissement, d'un tressaillement. Comme Jésus nous a dit qu'il a tressailli à un moment ou à un autre. Tressaillir, c'est le bonheur parfait, c'est la joie. C'est pas l'effroi, hein. Un ravissement, et nous contemplerons de tout notre être nouveau, ça pas le corps de la terre, dans l'extase et dans l'adoration. Mes frères et sœurs, commencez à vous exercer dans les cultes pour adorer le Seigneur, parce que vous allez le faire de l'autre côté. Je n'entends que le silence. Il est tellement perceptible et tellement audible, mais mes frères et sœurs, c'est une école, l'Église. C'est une école, notre vie spirituelle. Et nous le préparons pour le ciel, nous n'allons pas faire autre chose. Nous allons voir la gloire de Jésus. Une gloire qui est révélée. À travers la personne qui a souffert pour nous, qui a souffert la honte et l'ignominie, c'est Jésus. On passe encore à une autre question. Je les précède toujours avec un texte biblique, vous comprenez, c'est un petit peu fastidieux, mais c'est normal. Je ne veux pas vous raconter autre chose que ce que dit la Bible. Il est dit ceci dans 1 Jean, chapitre 3, « Nous sommes maintenant enfants de Dieu, vous le savez ? » Oui, nous sommes des enfants de Dieu. Hein. « Mais nous savons que nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. » Je vous ai parlé de voir. Tel qu'il est, nous lui serons semblables. Le caractère même de Jésus, ses perfections invisibles deviendront visibles. Tout ce qu'il peut y avoir de fruits excellents, célestes, dans la personne de Jésus, eh bien, nous sommes appelés à être comme lui. C'est-à-dire que Dieu va nous transformer, et ça s'appelle tout simplement la régénération, la nouvelle naissance et la sanctification. Ressembler à Jésus, à travers les fruits de l'Esprit, tout simplement. D'ailleurs, il y a un disciple, et je vous l'ai cité la dernière fois, il y a un disciple qui s'appelle Philippe, qui est venu voir Jésus qui lui dit « Montre-nous le Père, montre-nous Dieu en quelque sorte, montre-nous ton Père, montre-nous Dieu. » Alors, « Montre-nous le Père et cela nous suffit. » Et Jésus va lui répondre tout simplement cette parole. « Il y a si longtemps que tu es avec moi, Philippe, ça faisait 3 ans que Philippe, en tant que disciple, suivait Jésus, naturellement. Et tu ne m'as pas connu, tu n'as pas vu, tu n'as pas reconnu qui je suis. Celui, dira Jésus, celui qui m'a vu, a vu le Père. » Comment dis-tu, montre-nous le Père? Voir Jésus, c'est voir Dieu. Alors vous allez me dire, voir Dieu, C'est difficile parce que bon, c'est une autre dimension. Mais quand Jésus est venu marcher sur la terre, dans sa sainteté, sa perfection, son amour total, son amour divin, nous pouvons reconnaître à travers ses œuvres et sa personne, ses paroles sublimes, eh bien, le caractère même de Dieu. Alors nous le verrons, le Seigneur, nous verrons Dieu de notre côté. Mais nous apprenons déjà à travers Jésus à nous préparer à cette rencontre. Je vais un peu plus loin. Dans Colossiens, il nous est dit ceci, quand le Christ sera manifesté, vous serez manifestés avec lui en gloire. Jésus revient bientôt, hein? C'est notre espérance. Plus de 360 fois dans le Nouveau Testament, il nous est dit que Jésus revient bientôt. Il est venu une première fois dans l'humiliation, dans la honte et dans la souffrance. Ça, c'était sa venue terrestre, mais il nous est dit que dans les derniers temps, Jésus revient en gloire, et nous le verrons, il sera manifesté, tout œil le verra. Et là, à ce moment-là, eh bien, il va se passer quelque chose, c'est que nous serons manifestés avec lui, tout simplement. En gloire, ça sera quelque chose d'extraordinaire, connaissez-le, en un clin d'œil. Nous le verrons apparaître. Et là, il va se passer quelque chose pour l'Église fidèle, pour les chrétiens. Voilà, pas de moyen de propulsion nécessaire, nous allons à sa rencontre dans les cieux. C'est difficile à comprendre tout ça, hein? Mais c'est la Bible qui le dit, c'est pas moi qui le dis. Nous allons voir maintenant encore un autre aspect de l'humiliation à la grâce, à la gloire, pardon, de l'humiliation à la gloire. Et c'est Paul qui dit cela, et qui nous rappelle nos conditions d'homme. Écoutez bien. Paul dira, et si quelqu'un a souffert sur la terre, c'est Paul. Il n'a pas souffert pour lui-même, il a souffert pour la cause de l'évangile et le nom de Jésus, les persécutions, les coups, les emprisonnements, enfin tout lui est arrivé, hein, pour Paul. C'est, je dirais que Paul, c'est le Job du Nouveau Testament. Tout. De l'humiliation. Nous sommes sur la terre et nous sommes humiliés. Dans nos conditions physiques, morales et puis tout ce que l'on veut. C'est pas la gloire ici-bas, hein. Il est dit ceci, « J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. » Paul pouvait supporter la souffrance et les difficultés parce qu'il savait qu'il y avait quelque chose de l'autre côté et il considérait que toutes les misères et les malheurs de ce qu'il pouvait vivre lui n'avaient rien de comparable avec la délivrance, avec la beauté du ciel dans lequel, eh bien là, il avait espérance. Les souffrances du temps présent sont finalement en deçà, elles ne peuvent être comparées à la gloire qui nous sera révélée. Je continue, Paul dit aussi, « Car les légères afflictions du moment présent produisent en nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. » Ça c'est dans Corinthiens naturellement, hein. Ce sont les citations de Corinthiens. Il considérait, Paul, que tout ce qu'il pouvait vivre, je viens de le dire il y a un instant, c'est pas quelque chose de négatif, mais c'est quelque chose de positif si nous savons surmonter les épreuves et remplacer le mal par le bien, le transformer. Si nous avons des moments difficiles dans notre vie, à quelque niveau que ce soit et de quelque nature, regardons vers le Seigneur parce qu'il est capable de faire qu'une chose mauvaise qui nous parvient, il est capable de la changer en bonne chose pour nous faire grandir, pour nous développer, pour nous amener plus près de lui, pour nous amener à prier peut-être davantage. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu et de ceux qui sont appelés selon ses desseins. Paul, de mémoire 8, verset 28. C'est pour ça que nous ne désespérons pas. Nous pouvons connaître le deuil, nous pouvons connaître la séparation, nous pouvons connaître 1000 souffrances sur cette terre. Mais l'homme naturel se raccrochera à une philosophie. Il se raccrochera peut-être à quelque chose, il se raccrochera à rien et tombera dans le vide. Mais les chrétiens, nous pouvons dire que nous n'avons pas le droit de désespérer. Parce que nous avons un grand Dieu, un Dieu sauveur, un Dieu tout-puissant, et je me fortifie dans sa force toute-puissante. Hein. Ce poids éternel de gloire qui nous attend de l'autre côté est le résultat de nos légères afflictions. C'est pas qu'on va dire au Seigneur, envoie-moi des épreuves, j'aime ça. Ou alors faut être maso. Hein. Non, mais les épreuves, on n'a pas besoin de les appeler, elles viennent toutes seules. Ça, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Mais nous voyons que toutes ces légères afflictions, il était modeste hein, quand il dit légères afflictions, parce que quand on connaît ce qu'il a vécu, eh bien, ça contribuait finalement eh bien, à développer sa foi, à développer sa ferveur, son zèle pour Dieu. ça ne nous abat pas, ça nous redonne davantage de courage. On va aborder un autre sujet. Consolation. Le ciel, c'est notre consolation. Après les larmes, le parfait bonheur. Qu'est-ce que nous dit la Bible ? Dans Thessaloniciens, c'est Paul, hein, parce qu'il est prolixe, saint Paul. Hein. Il dit ceci, « Vous exhortant, c'est ce qu'on fait ce matin, vous consolant, c'est ce que je fais aussi ce matin, vous conjurant de manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. » Dieu nous appelle, on l'a vu, je ne vais pas commenter, à sa gloire, on l'a vu, mais il nous appelle à son royaume, qu'on en appelle le royaume de Dieu, qui nous prépare à rentrer dans le royaume des cieux. Nuance. Et si nous, nous avons sur cette terre des royaumes, des démocraties et tout ce que vous voulez, ça n'aura rien à voir. Ce royaume de Dieu sera la perfection entière et parfaite. Eh oui. Il vous appelle à son royaume et à sa gloire. Vous vous rendez compte que ce sera... Si nous avons un roi qui s'appelle Jésus-Christ, parce qu'un roi c'est un royaume, enfin il possède un royaume, nous serons donc princes. Nous ne sommes pas seulement enfants de Dieu, nous ne sommes pas des fils et des filles de Dieu seulement, mais nous serons des princes. Vous vous rendez compte? Et nous aurons même une couronne. Enfin, pourvu qu'elle soit à ma taille. Je ne sais pas, enfin c'est un petit clin d'œil que je fais au passage. Mais je veux dire que ça ne sera que le résultat finalement de notre filiation. Puisqu'il y a une grande doctrine dans la Bible qu'on appelle l'adoption. Nous sommes tous des enfants d'adoption, c'est-à-dire que nous étions perdus dans ce monde, sans père ni mère, enfin, sur le plan spirituel, hein, et que, en croyant en Jésus-Christ, il nous a adoptés comme ses fils, et il ne fait pas de différence. Ouais. Donc, il nous appelle à son royaume et à sa gloire. Nous participerons à la gloire de Dieu et à son royaume, en un mot, nous serons ses héritiers. Un enfant légitime dans une famille, mais il a droit à l'héritage. Et c'est tout à fait naturel, il y a une passation d'héritage. Et nous, notre héritage, il n'est pas un héritage, eh bien là, en argent ou en richesse ou en valeur terrestre. Mais notre héritage, ce sont des valeurs célestes et éternelles et à jamais. Hein. C'est pour ça que Jésus dira dans le sermon sur la montagne, faites-vous un trésor, non pas sur la terre, mais dans le ciel. Parce que sur la terre, il y a les voleurs qui dérobent, et puis la teigne qui fait rouiller les choses, enfin les valeurs. Mais faites-vous un trésor dans le ciel qui ne vous sera jamais pris. Et nous serons glorifiés ensemble avec Jésus. Nous passons à une autre phase, la consécration, ici-bas d'abord. Parce que de l'autre côté, ce ne sera pas un problème de consécration. Hein. Notre vie sera entièrement dans la plénitude du ciel. Donc, la consécration, qui découle de deux choses. Le service. Nous sommes sauvés aussi pour servir, mes frères et sœurs. Et notre service, il est multiple. Il n'est pas seulement spirituel, il peut être matériel. Dans notre fidélité, service et fidélité. Alors, le texte sera un peu plus long, mais écoutez bien attentivement, c'est Jésus qui nous dit cela. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, connaissez l'histoire, je ne vais pas reprendre le... En apportant 5 autres talents, et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents, voici j'en ai gagné 5 autres. 5 et 5, ça fait 10. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Quand ? On verra. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et dit, Seigneur, tu m'as remis 2 talents et voici, j'en ai gagné 2 autres. 2 et 2, ça fait 4. Donc, c'est à 100% hein, de réussite. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. On a commencé par le repos, par la joie, tout à l'heure. C'est ça, justement. Et c'est lié à la consécration, à notre consécration sur cette terre, et c'est lié à notre service et à notre fidélité, au retour de Jésus-Christ. Et lorsqu'il fera rendre compte à ses serviteurs, tous ceux qui ont été proches, le rendre compte, c'est pas un tribunal qui condamne, c'est un tribunal de récompense. Ceux qui auront été fidèles recevront ses éloges, le témoignage de leur fidélité, et ils entreront dans la joie du maître. Encore un autre texte qui nous parle de consécration, de service et de fidélité, c'est dans Luc. Il dit donc, c'est Jésus qui raconte une parabole, « Un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et revenir ensuite. Il appelait 10 de ses serviteurs, leur donna 10 mines et il leur dit, « Faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. » Lorsqu'il fut de retour, ce maître, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait remis, donné l'argent. afin de reconnaître, de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint et dit, « Seigneur, ta mine a rapporté 10 mines. » Vous vous rendez compte? 1, 10. Il dit, « C'est bien bon et fidèle serviteur, parce que tu étais fidèle en peu de choses. » Et écoutez bien mes frères, « Reçois le gouvernement de 10 villes. » Point d'interrogation. Je serai peut-être un jour maire de Nantes, de Saint-Nazaire. Et... Non. C'est une image, c'est ce qu'on appelle de l'anthropomorphisme, où Dieu se met à la portée des hommes pour expliquer des choses à caractère spirituel, invisible pour nous, mais en les matérialisant avec ce que nous sommes capables de comprendre. Écoutez bien, reçois le gouvernement de 10 villes. Le second vint et dit, Seigneur, ta mine a produit 5 mines. Il lui dit, toi aussi, sois établi sur 5 villes. Je crois, mes frères et sœurs, souvent on cherche la gloire, la gloriole hein, sur la terre. On veut un peu se gonfler et de dire, voilà, j'ai fait ceci et fait cela. Mais une chose qui est certaine, et ça il faut bien le comprendre, parce que nous aurons été fidèles, parce que nous aurons été intègres, parce que nous aurons marché dans les voies de Dieu, on n'est que des hommes, on fait des erreurs. Et quelquefois on fait des grosses bourdes, c'est vrai. Mais nous comptons sur la grâce et le pardon de Dieu, parce que à partir du moment où on revient vers lui et qu'on lui demande pardon, il a tout oublié. Mais, une chose qui est certaine, c'est que lorsque nous arriverons de l'autre côté avec la qualité, pas la quantité, mais avec la qualité de notre cœur à faire l'œuvre de Dieu, nous aurons une responsabilité dans le ciel qui est résumée à travers ces villes qui nous seront données, qui nous seront attribuées. Je ne peux pas vous en dire plus parce que je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça augure que nous aurons des responsabilités selon la fidélité que nous aurons montrée sur la terre. On donnera à celui qui a, mais on élèvera même à celui qui n'a pas. Vous voyez un peu le sens de la phrase? C'est que si nous nous sommes investis, si nous travaillons, si nous œuvrons dans l'esprit, non pas charnellement, eh bien nous recevrons quelque chose de l'autre côté, et ça va nous amener justement aux couronnes d'ici quelques instants. Les récompenses. Consécration, service, fidélité, les récompenses varieront selon la fidélité de notre service. Je remets un principe important devant chacun d'entre nous. Nous sommes sauvés par la foi, mes frères et sœurs. Nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, par les bonnes œuvres ou par les œuvres bonnes, vous les mettez dans tous les sens. On est sauvés par la foi. Je suis sauvé parce que je crois en Jésus-Christ, c'est tout. Sans mérite. Sans qualité particulière à faire valoir. Seigneur, j'étais un bon garçon, alors tu peux faire quelque chose pour moi quand j'arriverai de l'autre côté. Ça, c'est faux. C'est rien de plus faux. Ce sont des doctrines païennes, religieuses et païennes. Nous sommes sauvés par la foi, mais nous serons récompensés en fonction de notre fidélité et de la qualité de notre cœur que nous avons mis pour la gloire de Dieu. Nous serons récompensés selon nos propres œuvres. Si j'ai négligé l'œuvre de Dieu, si j'ai été méchant avec les autres, si j'ai raconté des histoires, si j'ai apporté des fausses doctrines, si j'ai fait ceci et cela, que pour moi l'œuvre de Dieu était une source de gain, comme on le voit malheureusement dans pas mal d'églises, que c'est devenu véritablement eh bien, quelque chose où on ne parle que d'argent, alors à ce moment-là, il n'y aura peut-être pas grand-chose de l'autre côté. Quand on voit l'humilité de Jésus, qui disait à ses disciples, « Partez sans bourse, partez avec qu'un seul vêtement », c'était pas l'enrichissement. Hein. Et ça, je crois que c'est véritablement dans notre temps, mais ça a toujours été, quelque chose de extrêmement scandaleux de mélanger Dieu et l'argent. Rendez à Dieu ce qui est à Dieu et à César ce qui est à César, vous connaissez. Hein. Alors, nous sommes sauvés par la foi, mais récompensés selon eh bien, nos propres œuvres. Nous en arrivons encore à, par-delà la consécration, à une autre situation, les épreuves et les tentations. Jacques nous dit, heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé dans cette tentation et l'épreuve, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Remarquez ceci. Notre vie, elle est faite de toutes sortes de choses. Bien de mal, de bons moments dans la vie, hein, c'est vrai. Et je crois que le chrétien doit être aussi un bon vivant, dans le sens naturellement, eh bien le plus noble, naturellement. Hein. Comprenez. Ceux qui supportent la tentation et l'épreuve, et je sais que parmi nous, et il y en a 10 millions ailleurs, hein, c'est ce que nous connaissons, Jésus nous promet, la parole de Dieu nous promet, que nous recevrons la couronne de vie. Il y en a trois couronnes, elles ont un nom. La couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qui l'aiment. C'est parce que nous aimons Jésus que nous recevrons la couronne de vie, vous comprenez? Et moi, je voudrais vous exhorter à perfectionner votre amour pour Jésus. Seigneur, donne-moi, augmente mon amour pour toi. Et aimer Jésus, c'est aimer la vérité. Parce que Jésus est la vérité. C'est aimer mon frère et ma sœur, même si quelquefois il m'a fait des petits croche-pieds, parce qu'il y a le pardon qui doit intervenir. C'est aimer, finalement, tout ce qu'est Jésus, c'est aimer sa parole, comme le psaume 119, qui n'est que, finalement, l'éloge, eh bien, de ce psalmiste, qui ne parle que de la parole de Dieu, et qui dit, mais Seigneur, enseigne-moi ta parole, parce que je l'aime. Si nous nourrissons de sa parole, ben, il n'y aura plus de place pour le reste, hein. Enfin, très peu. Ça sera prioritaire dans notre vie, hein, naturellement. Le mot traduit par supporter ne signifie pas simplement subir. Je prends des coups, mais bon, Seigneur, hein, voilà, c'est pas ça. Hein. Mais c'est continuer à persévérer, à endurer et à soutenir l'épreuve. Je ne lâche pas. Je suis engagé dans un combat, dans une lutte, mais Seigneur, je ne lâche pas, je ne veux pas lâcher, je veux que tu fortifies ma volonté pour ne pas lâcher. Et quelquefois, on a vraiment envie de tout balancer. Hein. Quand on souffre, quand on nous fait du mal, quand il y a des gens qui nous font des méchancetés, oh, Seigneur, moi j'en ai par-dessus la tête, j'abandonne. Non, ça sera la continuité, la fermeté que nous aurons dans nos épreuves. Mais Jésus nous dit, mais je suis tous les jours avec vous jusqu'à la fin du monde, alors n'ayez pas peur. Vous traversez des moments difficiles, mais je serai avec vous dans vos moments difficiles. Le Seigneur n'est pas venu supprimer la souffrance, il est venu la vivre avec nous, parce qu'il sait ce que c'est que la souffrance. Je continue, deuxième couronne. Désormais la couronne de justice m'est réservée, dit Paul, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Vous remarquez qu'il y a ce jour-là. Ce jour-là, c'est le jour où nous rencontrerons le Seigneur, soit par l'enlèvement, soit par notre mort naturelle. Parce que lorsque nous fermons les yeux pour toujours, que nous rendons le dernier souffle, nous rentrons directement dans la présence du Seigneur, ce jour-là. Et Paul, qui a consacré toute sa vie, et vous savez que Paul a été longtemps, avant de se convertir, un ennemi du christianisme. Et il parle de sa mort prochaine, certainement dans le martyr, je ne sais pas. Et il nous est simplement dit que, eh bien, il donne cette couronne tout simplement de justice. Elle s'appelle la couronne de justice à tous ceux qui auront aimé son avènement. Tout à l'heure, nous avons vu que nous avons la couronne de vie parce que nous avons aimé Jésus. Maintenant, nous voyons que nous avons la couronne de Jésus après avoir, nous aurons la couronne de justice, pardon, pour avoir traversé la vie en supportant les épreuves et en attendant son retour, son avènement. Jésus, sa personne, et puis son retour. C'est vraiment croire à ses promesses qu'il revient, et qu'il revient bientôt, naturellement. Voici les exhortations, nous dit Pierre, que j'adresse aux anciens. Et là, il est question de l'exhortation aux pasteurs, aux frères anciens, aux responsables de l'Église, et à chacun d'entre nous, si vous voulez, parce que nous sommes co-responsables dans tout ça. Alors, il est dit, voici les exhortations que j'adresse aux anciens qui sont parmi vous. Il est dit, paissez le troupeau de Dieu qui est sous votre garde, non par contrainte, parce que je suis obligé de le faire, mais je le fais par amour, non par contrainte, mais volontairement selon Dieu, non pour un gain sordide, nous avions parlé d'argent, hein, mais avec dévouement, non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais comme étant les modèles du troupeau. Chacun d'entre nous, nous devons être sel de la terre et lumière du monde. Et lorsque le souverain pasteur, pour ça qu'il parlait des pasteurs, ou à des responsables, paraîtra, vous hériterez, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. La couronne de vie, parce que j'aime Jésus. La couronne de justice, parce que j'aime son avènement et je l'attends. Et la couronne, tout simplement, incorruptible de la gloire, parce que, dans mon service, Jésus a été le premier, et j'emprunterai les paroles de Jean-Baptiste, il faut que je diminue et que Jésus croisse. Moi, je disparais. La maxime d'Abraham, c'est rien pour moi, tout pour Jésus. Et c'est pas pour autant qu'on est des fanatiques, hein, ou des intégristes. Je le dis au passage. Ça, c'est important de le souligner. Parce qu'on reste les pieds sur terre, mes frères et sœurs. Un dernier point que nous allons voir. Il est dit, tout simplement, à celui qui vaincra, à celui qui vaincra, alors attendez, faut que je me resitue, excusez-moi, ça faisait pas mal d'écriture. Nous allons voir maintenant les promesses. Nous allons voir les promesses qui sont faites à celui qui va vaincre. Vous avez remarqué que dans les sept églises de l'Apocalypse, la conclusion à chacune des lettres, c'est, comme un leitmotiv, ça revient continuellement, à celui qui vaincra. Nous sommes appelés à être vainqueurs et non pas des vaincus, puisque Jésus a vaincu. Il a vaincu le diable et tout ce qui peut faire opposition. Alors les promesses faites pour les vainqueurs. Dans Apocalypse chapitre 2, à celui qui vaincra, je donnerai à manger de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. L'arbre de vie. Vous vous souvenez, dans le livre de la Genèse, nous aurons cet arbre de vie, c'est-à-dire le renouvellement perpétuel et éternel de la vie en nous, dans le paradis de Dieu. Toujours dans Apocalypse, puisque c'est là que nous avons toutes ces références, il nous est parlé de celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort. Nous vivrons la mort naturelle, mais nous n'aurons pas à vivre la seconde mort, parce que dans l'explication que nous donne l'Apocalypse, ceux qui vont vivre la seconde mort, ce sont ceux qui sont perdus, ceux qui ont méprisé la grâce de Dieu, qui l'ont rejetée, et là, à ce moment-là, ils ressusciteront, c'est vrai, mais pour le jugement éternel, donc la condamnation éternelle. J'ai pas voulu vous parler des condamnations éternelles, parce que pendant des siècles et des siècles, l'Église chrétienne n'a parlé que de ça, sans nous parler de l'espérance du ciel. Il y a quand même quelque chose qui va pas, hein. Et moi, je m'intéresse à ce qui est positif et non pas négatif. Parce que les uns et les autres, et tous ceux qui sont autour de nous, ils ont besoin d'entendre parler d'un Jésus sauveur et des formidables promesses de la vie future. Et non pas de dire, vous allez aller bouillir pendant je ne sais pas combien de temps, enfin, il n'y a pas de temps, de toute façon, dans la marmite du diable. Ce sont pas des conversions, ça. Ce sont pas des vraies conversions. C'est la peur qui amène les gens. Mais il n'y a rien de valable et il n'y a rien de... Alors, il faut prendre le contre-pied. Et moi, je parle d'une manière positive. Parce que c'est ça ce que nous avons besoin, en tous les cas. Celui qui vaincra n'aura pas à souffrir la seconde mort, ai-je dit. À celui qui vaincra un peu plus loin, je donnerai la manne cachée. Je lui donnerai un caillou blanc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Vous vous rendez compte, quand on va arriver de l'autre côté, Dieu nous donnera cette manne cachée, comme les Israélites dans le désert. C'était miraculeux, ils avaient à manger tous les jours. Oh. Et puis, un caillou blanc, vous vous rendez compte? Il y aura un nom dessus. Ça sera un nom nouveau. Et il sera finalement le reflet de mon identité profonde spirituelle. Ne m'appelez pas Alain dans le ciel. Je comprendrai plus. Enfin, vous pouvez toujours m'appeler. Si je réponds pas, vous comprendrez que j'ai pas compris. Mais bon, toujours est-il que nous aurons un nom qui caractérisera ce que nous avons été sur la terre. L'image de Jésus en moi, naturellement. Donc, la manne cachée, un caillou blanc. Un nom nouveau et qui sera mon identification spirituelle profonde réelle. Un peu plus loin toujours, hein. Je donnerai autorité sur les nations à celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, c'est-à-dire la persévérance. Je lui donnerai l'étoile du matin. Ouais. L'étoile du matin, c'est la première étoile qui brille dans le firmament et qui nous annonce l'arrivée du jour. Jésus est l'étoile du matin, n'est-ce pas? C'est écrit dans la Bible, hein. Parce qu'il vient pour nous donner un jour nouveau. Mais Jésus est venu il y a 2000 ans. Il est né la nuit. Les hommes ont été conduits par une étoile qui brillait dans le ciel. Mais il n'en demeure pas moins qu'il est l'étoile brillante du matin pour dire aux hommes, le monde a été, votre vie a été dans les ténèbres pendant ceci, cela. Mais maintenant je viens pour vous donner une vie nouvelle. C'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. Une vie nouvelle, naturellement. Celui qui vaincra donc, qui gardera ses œuvres, son cœur à Jésus, eh bien il lui donnera autorité dans les nations. Quand? Au moment du millénium. Vous savez qu'on vivra dans le millénium, nous, les chrétiens. Mais on ne vivra pas avec les hommes et les nations qui seront dans le millénium proprement dit. Nous régnerons dans le millénium. C'est peut-être là l'histoire des dix villes. On ne sait pas. Mais bon, je ne veux pas spéculer là-dessus, parce que je ne pourrais pas vous dire. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous régnerons dans le millénium pendant 1000 ans avec Jésus, et Nous serons certainement les gérants de toutes ces nations qui seront là, dont la capitale sera Jérusalem. Ça va pas faire plaisir à certains, hein, je peux vous le dire. Et il recevra l'étoile du matin. Encore une proposition. Tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs, parce qu'ils en sont dignes. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie. Je confesserai son nom devant mon Père et devant les anges. Parce que nous sommes vainqueurs, nous serons revêtus de vêtements blancs, qui est l'image de la pureté. Christ n'effacera pas son nom dans le livre de vie, c'est pour ça que nous sommes sauvés. Vous savez que votre nom est déjà dans un registre, pas sur terre, mais au ciel. Voilà, il est déjà là, hein. Il confessera, Jésus confessera son nom devant son Père et devant les anges, et ce qui nous permettra de marcher avec Jésus, et bien dans sa pureté et la sainteté parfaite. Dernière proposition, celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, il n'en sortira plus, ça n'a rien à voir avec une prison. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, mon nom nouveau, celui qui vaincra encore. Il fera de nous une colonne, la colonne c'est un appui. C'est ce qui est solide, c'est ce qui ne s'ébranle pas, c'est ce qui maintient tout une colonne. Et nous serons des colonnes dans le temple. Ça me fait penser à David, dans le psaume 23. Et j'habiterai dans le temple de mon Dieu tous les jours du reste de ma vie. Psaume 23, hein. Il y avait l'esprit déjà chez David, hein. 30 siècles auparavant. Il écrira sur nous le nom de son Dieu, le nom de la ville, de la nouvelle Jérusalem. C'est ce qui fera notre caractéristique. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi, j'ai vaincu, et je me suis assis avec mon Père sur son trône. Quand je vous disais que nous étions des princes, dans le ciel, nous serons distingués en raison, finalement, et bien de ce que Jésus nous a donné. Nous serons assis. C'est pour ça qu'on parle de repos. Nous serons assis sur son trône. Qu'est-ce qu'il doit être grand, le trône de Dieu, hein? Des myriades et des myriades, c'est une image naturellement. Il essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, il n'y aura plus ni cri, il n'y aura plus de douleur, car les premières choses ont disparu. C'est comme s'il y avait un voile qui était tiré avant et après. Anciennement, et ce qui est nouveau maintenant. Nous allons vers le nouveau, mes frères et sœurs. L'esprit humain a un esprit de conservation de tout. Mais tout ça, ça aura disparu. C'est pour ça qu'une nouvelle créature, comme Paul le dit, les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Nous regardons et nous marchons vers l'avant aujourd'hui, hein, naturellement. Vous rendez compte, plus de larmes, plus de cris, plus de morts, on ne saura pas ce que c'est. On ne saura plus ce que c'est. Et je termine par les perfections et la sainteté céleste. Parce que c'est Dieu qui va nous aider. Il vous affermira ainsi jusqu'à la fin pour que vous soyez irréprochables au jour de notre Seigneur Jésus-Christ. Lorsque Jésus reviendra, Jésus nous fera irréprochables et si parfait, qu'il n'y aura plus rien en nous de défectueux et de répréhensible. Nous nous sommes entachés par le péché. Même le meilleur des hommes a ses failles, il a ses faiblesses, il a ce que nous savons tous les uns et les autres. Mais lorsque nous arriverons de l'autre côté, eh bien, vous rendez compte ce que ça veut dire? Irrépréhensible. Ça sera la perfection. Afin de faire paraître devant lui une église. Et là, nous y arrivons. Parce que nous sommes des individus, mais nous sommes aussi un corps vivant que l'on appelle l'église de Jésus-Christ. C'est pas l'église catholique, c'est pas le centre évangélique, c'est pas l'église protestante. C'est tout simplement le rassemblement local ou universel d'hier et d'aujourd'hui de tous les hommes qui ont cru en Jésus-Christ et qui se sauvaient. On l'appelle l'église universelle, tout simplement. C'est cette église. Et quand il nous est dit avec des mots tellement beaux et tellement forts, quand il nous est dit que l'église de Jésus-Christ, c'est son épouse, vous vous rendez compte? Qu'est-ce que fait un mari? Il aime son épouse. Et il fait tout pour qu'elle puisse véritablement, eh bien là, être heureuse. Ce qui est tout à fait normal. Chair de ma chair. C'est tout à fait normal. Et Jésus nous a appelé son épouse. Nous sommes là, finalement, eh bien non seulement sa fiancée, mais nous sommes véritablement son épouse, et il nous est dit que, afin de faire paraître devant lui cette église glorieuse, sans tache, et quand on parle de l'église d'aujourd'hui, je peux vous dire qu'il y a des taches, hein. Oui, mais elle a été détachée par le sang de Jésus. Hein. Et comment vous nettoyez quelque chose qui est souillé avec du sang? Ça souille encore davantage. Eh bien, justement, le sang de Jésus lui purifie et il blanchit. C'est extraordinaire, ce sont des choses qui sont impensables. Donc, si glorieuse, sans tache, ni ride, c'est le vieillissement les rides en principe. Hein. Et l'Église doit rester toujours jeune. Non pas parce qu'elle fait n'importe quoi et elle trémousse et puis, bon d'accord, parce qu'arrivé à un certain âge, on a du mal à une pesanteur. Hein. La charge pondérale est là, hein. On saute un peu moins. Mais c'est pas ça. C'est pas le culturel dans l'Église qui est important. C'est notre renouvellement intérieur spirituel et nous restons jeunes. Ouais. Si mon corps se dégrade de jour en jour, nous dit Paul, mon esprit à l'intérieur, vous vous rendez compte, et se rajeunit. Moi, j'ai vu des frères et des sœurs qui arrivent à 80, 90 ans et qui avaient une jeunesse à l'intérieur qui ferait pas l'air des jeunes de 20 ans. J'en dis pas plus. Et je ne vise personne. Ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Et quand je dis que je termine, je termine. Christ se présentera lui-même à son Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, donc mais sainte et répréhensible. Dernière chose. Nous sommes appelés pour un héritage qui ne peut ni corrompre, ni se corrompre, ni souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. La réservation est déjà faite, hein. Bien sûr, le jour où j'ai dit oui à Jésus et que je me suis engagé à me faire baptiser, j'ai pris ma réservation pour le ciel. Vous l'avez pris, vous? Oui? Je devrais le savoir quand même, si c'est moi qui vous ai baptisé. Alors, réservé dans les cieux à vous, qui par la puissance de Dieu, c'est pas ma puissance, c'est pas ma force, mais par la puissance de Dieu, vous qui êtes gardés dans la foi, mais c'est Dieu qui nous garde. Quelquefois, j'entends des chrétiens qui me disent « j'ai peur de perdre la foi, j'ai plus la foi ». Mais, vous n'avez pas compris? Mais c'est Dieu qui vous garde, c'est pas vous qui allez garder la foi. Et tant que vous serez fébrile, et tant que vous serez nerveux ou angoissé en disant « je veux être, ceci et cela pour plaire au Seigneur », vous allez avoir du mal. Hein. Moi, ma foi, je sais que je l'ai remise en Jésus, je la confesse, je dis « Jésus, je crois en toi, je confesse ma foi en toi », mais c'est lui qui va la garder, c'est pas moi. Ça, c'est encore revenir au système légal de l'Ancien Testament. La foi, c'est la grâce. C'est l'amour de Dieu pour moi. Et il n'y a que ça que je crois. C'est important. Alors, gardez par la foi pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Et nous sommes, frères et sœurs, dans les derniers temps. Vous croyez que nous sommes dans les derniers temps? Ouais, je pense que le Seigneur revient bientôt. Il rassemble encore son Église, je ne pourrais pas vous dire quand, comment ça va se faire. Mais une chose qui est certaine, c'est que Jésus revient bientôt. Alors, je reprends la première lecture, mais je vous la donne dans une traduction moderne. C'est même pas la peine d'ouvrir votre Bible, vous allez vous en souvenir. Qu'est-ce que nous avons dit? On avait parlé de la peur et de la crainte de la mort. Nous n'avons aucune raison d'avoir peur. Le temps viendra. C'est pas à nous de choisir, naturellement. On ne sait pas quand et ça vaut mieux qu'on ne sache pas. Mais une chose qui est certaine, c'est que nous devons battre en brèche toutes ces choses qui sont si normales, naturelles et humaines. De dire, mais oulala, qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? Ben, on a essayé de répondre ce matin. Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté? On l'a vu. Hein. Vous avez pensé que c'était des bonnes choses? Ça n'a rien à voir avec l'enfer. Hein. Pas du tout. Hein. Je lis cette version moderne. Jésus a partagé notre condition humaine. On est d'accord. Il l'a fait lui-même en passant par la mort. La crucifixion, on est d'accord aussi. Hein. Alors, à ce titre-là, parce qu'il a pris la condition des hommes, parce qu'il est mort comme un simple homme, il a ravi, on pourrait dire qu'il a arraché, c'est le mot, à celui qui détenait le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, la capacité de nous faire trembler, la capacité de nous inspirer le jugement de Dieu et la condamnation de Dieu. Ainsi, il a délivré ceux et celles que la mort tenait par la peur, dans la peur, leur vie entière. Il les a délivrés d'un véritable esclavage. Le Seigneur nous a délivrés, mes frères et sœurs. N'ayez pas peur. Vous en savez suffisamment. Nous avons vu brièvement à travers cette petite étude, eh bien là, ce qu'il y a de l'autre côté. Et ça n'a rien à voir avec finalement ce que nous vivons. Nous espérons dans la grâce de Dieu. Nous croyons à la grâce de Dieu. Et une chose qui est certaine, c'est que nous pouvons dire à celui qui vaincra. Et les uns et les autres, après avoir entendu tout cela, nous pouvons dire, eh bien, moi, je veux vaincre. Je vais vaincre parce que je crois que toi, tu as vaincu, Seigneur. Alors que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Vous pourrez reprendre tout ça, ça va être enregistré, ça passera dans les études qui sont faites ici. Mais une chose qui est certaine, c'est que encouragez-vous à fortifier votre foi et votre espérance. Trois choses demeurent, nous dit Paul. La foi, l'espérance et l'amour. Voilà. L'amour de Dieu, l'amour de mes frères et sœurs, l'amour des autres qui sont autour de moi, parce que nous ne sommes pas appelés à autre chose, puisqu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Il n'y aura que des récompenses. Et le ciel, que Dieu nous bénisse. On prie quelques instants, si vous voulez. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons grâce pour ta parole. Elle est merveilleuse, ta parole. Elle nous donne, Seigneur, des yeux pour voir l'invisible, l'au-delà, Seigneur. Et nous te remercions, il ne s'agit pas de réincarnation ou de purgatoire. Il ne s'agit pas de tout ce que les hommes ont pu inventer pour se tranquilliser, mais ce que nous le recevons de la bouche même de Jésus, comme tu nous l'as rappelé. Il a pris notre condition d'homme, et il est mort comme un homme, un simple homme, mais il est ressuscité comme Dieu. Il est ressuscité par son Père, Dieu, parce que Jésus est Dieu. Et aujourd'hui, la porte est ouverte de la formidable bonne nouvelle de la résurrection. C'est que nous allons, à un moment ou à un autre, quitter cette terre pour rentrer dans la félicité céleste, le parfait bonheur à jamais. Et nous te bénissons et nous te remercions, tel est véritablement le sens de notre espérance. Bénis mes frères et mes sœurs, donne-leur de se réjouir. Donne-leur de se réjouir et de tressaillir de joie, parce que nous croyons, Père éternel, que pour nous mourir, ce n'est pas une condamnation, une sanction, une punition, mais pour nous, c'est une nouvelle dimension dans laquelle nous vivons. Merci, Seigneur, comme nous sommes nés, comme embryons dans le ventre de notre mère, ça a été un temps. Nous sommes venus à la vie terrestre, eh bien nous allons rentrer dans une troisième dimension, la vie céleste. Si nous croyons en Jésus-Christ et que nous l'acceptons comme notre sauveur personnel et que nous le faisons Seigneur de notre vie, au nom de Jésus, merci Seigneur. Amen.
Pour écouter d'autres messages audio ou vidéo, retrouvez-nous sur www.add-saint-nazaire.fr.